Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast, disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com.
Dans 2 ans, au revoir, monsieur, dame. Je serai à l'échelon 7. Les mômes sont élevés. J'ai ma cabane en Dordogne. La retraite, faut la prendre jeune.
Faut surtout la prendre vivant.
C'est pas dans les moyens de tout le monde.
Au sommaire aujourd'hui, une spéciale polar avec Aimez-vous les uns les autres. Et oui, chers frères et sœurs, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, paru aux éditions du Caïman et signé James Holin. James Holin que vous pourrez écouter en entretien dans la première partie de l'émission. On reviendra également sur un ouvrage intitulé Le Remake, un ouvrage de Clay MacLeod Chapman qui est paru aux éditions Pygmalion. Et puis on s'aventurera dans la galaxie cinématographe avec La Nuit du 12 de Dominique Moll, Le Coup de l'escalier de Robert Wise, Cain et Abel de Lino Broca. Alors La Nuit du 12 c'est sorti chez ESC, Le Coup de l'escalier chez Rimini, Cain et Abel chez Carlotta Film, et on terminera par une sortie Artus Film, un flic explosif de Stelvio Massi. L'équipe de Culture Prohibée remercie Slavka Mikluzova, Lucie Mautier, Kevin Boissezon, Clément Delpech et Thierry Lopez pour leur aide sur cette émission. Cette émission est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut. Aimons-nous les uns les autres, comme l'écrit James Holin. Alors aimons-nous les uns les autres dans ce studio, voilà, où nous allons tous nous aimer durant une heure d'émission pour aborder différentes facettes du polar. Et bah, pour causer polar, donc, je suis accompagné de Damien Demey, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Et puisque nous aimons l'un, il faut aimer l'autre. Je veux bien sûr parler de Thomas Roland, grand amateur de romans noirs et de polars lui aussi, mais qui la nuit fait parfois des choses inavouables sous le pseudonyme du Loup-Garou Picard. Et oui, ce créateur de l'émission À l'écoute du cinéma diffusée sur RCA rédige chaque nuit de pleine lune de sanglants écrits pour la revue Prime Cut dont il est le rédacteur en chef. Bonjour Thomas.
Bonjour Damien, bonjour Gégé. Alors je tiens à lever une ambiguïté, hein. Aimons-nous les uns les autres dans ce studio avec modération quand même, hein.
Tout d'abord, je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Le Remake. Alors, c'est un livre de Clay MacLeod Chapman, qui est un livre qui est paru aux éditions Pygmalion. Alors, c'est un livre très très particulier, qui d'ailleurs va être adapté en série télé par Amazon Prime Video. Je suis curieux de voir ça, voir ce que ça va donner. Ce serait inspiré d'une histoire vraie et c'est une sorte de thriller qui est vendu comme un thriller qui devrait ravir les amateurs de true crime. Vous savez, ces docu-fictions un peu là centrées sur des crimes célèbres qui, en ce moment, fonctionnent plutôt bien, en fait, que ce soit en podcast, que ce soit sur différentes plateformes. Alors, je dis que je suis curieux de voir ce que ça va donner parce que c'est un roman très ambitieux, en fait, dans son écriture, dans la manière dont il est présenté. Je suis curieux de voir comment il va être adapté, en fait. Ils n'ont pas intérêt à refiler ça à un tâcheron parce qu'il y a un gros boulot d'adaptation. Alors, l'histoire est la suivante. Ella Louise vivait dans les bois entourant Pilot's Creek, en marge de la société. En privé, nombreux étaient ceux qui venaient lui demander de soigner leurs maux, jusqu'à ce qu'Ella Louise soit accusée de la mort d'un client. Accusée de sorcellerie, elle fut brûlée au milieu de la nuit.
Ce drame est devenu une légende urbaine et le sujet principal d'un film horreur culte des années 70. Lorsque se prépare un remake 20 ans plus tard, Amber, l'actrice principale, devient la cible d'une chasse aux sorcières. L'histoire se répétera-t-elle ? Ben voilà un pitch, évidemment, un pitch qui attire tout de suite les cinéphiles que nous sommes. Le livre a une écriture très très ambitieuse. Livre dont le sujet quand même principal est la peur primale en fait. Hein, c'est-à-dire ces peurs que l'on ressent enfant, par exemple comme la peur du noir, des choses comme ça, des choses qui peuvent paraître parfois assez absurdes, comme la peur d'un objet de décoration qui passe dans le décor et que... vis-à-vis duquel on a énormément peur quand on est un enfant, voilà, une statuette, un truc comme ça, voilà. On demande à ses parents de mettre un voile dessus, ce genre de choses. Voilà. Ce livre, il est sur les peurs primales. Vraiment, c'est pour moi, c'est le sujet de fond du livre. Alors, c'est un livre qui est, comment dire, un livre en plus très particulier dans sa lecture. Sa lecture peut être assez ardue parce que c'est un roman choral qui adopte en fait différentes unités de temps, différents points de vue. On a une partie, quelques pages hein, qui se passe sur le cas original hein, qui se passe en 1951, qui raconte l'histoire de Jessica et de Ella Louise qui donc ont été brûlées toutes les deux, comme je vous le disais. Ensuite, on est en 1971, là où on a le tournage du premier film, qui s'appelle quand même « Ne marchez pas sur la tombe de Jessica », ça rigole pas. Et en fait, on est dans la tête de l'actrice Amber, hein, qui est une petite fille poussée par sa mère pour jouer le rôle de Jessica. Et en 95, il y a un remake, et Amber a le rôle de la mère, cette fois-ci, la mère de Jessica, qui est cette fois-ci ben, évidemment joué par quelqu'un d'autre, et on est dans la tête d'Amber, alors, il faut suivre hein, qui ne s'est pas remise donc, du premier film qui est devenu culte. On bascule en 2016 avec Nathaniel Dennison qui fait un podcast sur les légendes urbaines et qui part à la recherche d'Amber et qui finit par la trouver vivant dans une caravane parce qu'elle a été accusée du meurtre de l'actrice qui jouait Jessica dans le remake. Et à partir de ces quatre unités de temps, de ces quatre histoires, Clay McLeod Chapman va en faire une seule. Et moi, je pense, on part d'une légende urbaine, mais en fait, ça va atteindre une ampleur très, très, très importante. On va aller vers quelque chose de tragique, vers quelque chose de violent, en même temps de fascinant, parce que la manière dont c'est écrit fait qu'on reste quand même assez accroché au bouquin. Et le livre invite un peu tous les poncifs auxquels on pourrait s'attendre, en particulier en distillant une ambiance assez subtile, une ambiance assez tendue. On sort assez abasourdi de ce bouquin et on comprend très bien le pouvoir de fascination qu'il peut exercer sur les lecteurs et qu'il puisse susciter l'envie d'être adapté. Néanmoins, je le redis, lisez le bouquin, on en reparlera parce que je me demande bien ce que va pouvoir donner une série adaptée d'un bouquin écrit comme ça à divers points de vue. Je pense que ça ne va pas être simple à adapter, donc concentrons-nous sur le bouquin pour l'instant. Ça s'appelle Le Remake, c'est de Clay McLeod Chapman et c'est disponible aux éditions Pygmalion. Écoutez Culture Prohibée. Autre livre sur lequel je vais être plus rapide. Non pas parce qu'il est moins bien, au contraire, je l'ai beaucoup aimé, mais je dis surtout que je vais en parler avec l'auteur. Alors ce livre s'appelle « Aimez-vous les uns les autres », c'est paru aux éditions du Caïman. C'est signé par l'auteur de Pleine Balle, James Holin. On avait reçu Pleine Balle, on vous en avait parlé sur cette descente aux enfers d'un flic un peu singulier, et ça se passait sur une nuit où on voyageait dans la Picardie comme ça. Bon là, ça se passe encore en Picardie, hein. C'est un peu le principe de ces livres parus aux éditions du Caïman. Il est 6h du matin quand la police défonce la porte du jeune Nolan Dardanus à Bobigny. Alors on est à Bobigny avant d'aller dans la Picardie. Les policiers cherchent son frère impliqué dans un trafic de stupes. Le frangin n'est pas là parce qu'il est en train de vivre un truc pas très agréable. Et si ce frangin doit ne pas mourir, il faut qu'en fait Nolan trouve 10 000 euros. Ça se trouve pas comme ça, 10 000 euros. Hein. Voilà. Il a jusqu'à 22h pour trouver 10 000 euros et sauver la peau de son frangin. Et puis, incroyable mais vrai, il découvre que sa maman n'est pas la maman si prude qu'il veut bien croire, qu'elle a eu une aventure avec un notable de la ville de Laon, dans l'Aisne, et qui se retrouve être héritier parmi tout un tas de frères et sœurs qu'il va découvrir et que nous allons découvrir en suivant ce roman. Et ça, on va suivre les péripéties de ce jeune Candide de banlieue qui va découvrir le monde rural, le monde du 02, la ville de Laon, avec tout ce qui va avec. Malheureusement, même ce qui n'est pas drôle, hein, les usines qui ferment, les gilets jaunes, les ouvriers en grève. Voilà. Je me suis surpris à rire plusieurs fois en le lisant, dès le début d'ailleurs. Hein. Tout le monde en prend pour son grade. Enfin, moi, ce que je vous propose, c'est pour parler de ce bouquin qui mélange avec joie et allégresse la comédie et le roman noir, je vous propose de retrouver James Solin, l'auteur du livre. James Solin, donc auteur de « Aimez-vous les uns les autres » paru aux éditions du Caïman, tout de suite au micro de Culture Prohibée. Bonjour James Solin.
Bonjour.
Alors, vous venez de signer « Aimez-vous les uns les autres », qui est paru aux éditions du Caïman, qui est un polar. Ouais. On vous avait reçu dans l'émission pour Pleine Balle, qui était un polar très noir, qui se déroulait sur une nuit. Mais enfin, on y reviendra pour l'unité de temps un peu plus tard dans l'entretien. Mais ouais. Pourquoi vous avez choisi là, de passer d'un ouvrage très noir à un ouvrage beaucoup plus humoristique, beaucoup plus drôlatique ?
C'était l'humeur du moment. Quand je regarde les bouquins que j'ai faits, les 6 bouquins que j'ai faits, il y en a qui sont plutôt sombres, il y en a dans une veine plutôt humoristique, et ça s'est fait naturellement. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que le sombre se passe la nuit et l'humoristique se passe en une journée, donc c'est rigolo. Il y en a un qui est guidé par le soleil et l'autre par la lune, visiblement.
C'est le point commun en fait qu'il y a entre vos deux derniers livres, c'est le fait que le précédent se passait donc sur une nuit, celui-là se passe sur une journée, puisque c'est l'histoire d'un jeune qui se retrouve, qui se découvre un père qui était un notable qui habite l'Aisne, qui habite le Laon, et qui se retrouve chez un notaire avec toute une famille qu'il connaît pas, et ils ont toute une journée pour se mettre d'accord. Est-ce que ça fait partie, vous, quand vous choisissez comme ça d'écrire le précédent sur une nuit, celui-là sur une journée, d'une contrainte d'écriture que vous vous imposez pour pouvoir donner un certain rythme à votre écriture et puis à votre bouquin qui est très rythmé, qui se lit très vite. Pourtant, il est beaucoup plus épais que l'autre, celui-là, et il se lit, il s'avale tout seul, on va dire.
Ouais, parce qu'en fait, à chaque bouquin est un défi avec pas mal de contraintes que je me pose, hein, personne ne me les pose. Parce qu'en fait, je me suis aperçu que plus on se met, pas énormément non plus, mais quand on se met quelques contraintes, généralement, ça favorise la créativité. Et là, j'avais fait un en une nuit, je me suis dit, tiens, je vais faire un en une journée, on va voir ce que ça donne. Et c'était un peu le contrat que je m'étais fixé, et donc que j'ai rempli. Après, oui, voilà, c'est comme ça, c'est des contrats que je me mets tout seul, en fait.
D'accord. Alors, je trouve qu'il y a différentes influences dans ce bouquin. Enfin, vous allez me dire si je me trompe peut-être. Hein. J'y vois un peu d'influence cinématographique avec un petit côté Audiard dans les dialogues. Et puis du côté bouquin, j'y vois une petite verve à la San Antonio, un petit côté aussi Charles Williams, la Fantasia chez les Ploucs, voire Joe Lansdall qui a créé à peine Leonard, qui sont des personnages de romans noirs, là aussi, qui vont à fond dans la noirceur, mais qui sont aussi très drôlatiques.
Ouais, c'est ça, il y a pas mal d'influences qui sont non réfléchies, hein, qui sont venues toutes seules. Et c'est vrai qu'on m'avait dit que ça ressemblait pas mal à des dialogues d'Audiard, et que il y avait une patte à la San Antonio, ce qui était quand même vachement sympa de la part des gens qui m'avaient dit ça. Et effectivement, alors j'adore la comédie, hein, je regarde pas mal de comédies cinématographiques, et ça m'a certainement influencé, ouais.
Ben justement, si vous regardez pas mal de comédies, alors quelles sont les comédies qui alors peut-être inconsciemment, mais en tout cas, qui, vous pensez qu'elles vous ont un peu influencé pour ce bouquin-là, enfin qu'elles vous ont guidé vers ce bouquin-là?
Alors moi, je pense que moi j'étais un grand fan des films de Funès, des films avec Coluche, de tout ce qui est les Bronzés, tout ça, les films de Pierre Richard aussi. Ça, je dirais, ça a nourri mon enfance, et même plus que mon enfance, puisque j'ai continué de les voir et de les regarder. Et donc, je pense que ça a dû jouer. Alors, s'ajoute à ça des films que j'ai adorés avec Poulvorde, beaucoup plus sarcastique, beaucoup plus sombre, mais très drôle. Notamment mon film préféré, hein, les Portes de la Gloire, qui est vraiment un film absolument fabuleux, malheureusement pas très connu, où vous avez Poulvorde qui encadre une équipe de vendeurs d'encyclopédies, des gens qui écument les cités ouvrières du Nord pour vendre des encyclopédies. C'est un film absolument remarquable et c'est un de mes films préférés. J'adore aussi les films, certains films qui sont à la frontière de l'humoristique, mais avec Nicolas Cage. Je pense le film qui s'appelle The Weatherman. Je ne sais pas s'il est très connu en France. C'est un présentateur météo qui fait une carrière assez médiocre et qui surtout a la particularité de se faire envoyer sur le visage soit des boissons, soit des morceaux de beignets, des morceaux de hot dog, de tout ce qui est junk food, quand les gens le voient dans la rue. Donc The Weatherman, ça m'a vraiment... autre film, je pense, mais on n'est pas vraiment dans la comédie, encore que ça peut faire rire, ou du moins ça peut faire grincer les dents, qui m'a certainement influencé. Le film aussi avec Nicolas Cage, qui s'appelle Lord of War, où il joue un vendeur d'armes. Voilà, tout ça, c'est ce mélange entre les comédies, je dirais, classiques françaises, un petit peu pochade, enfin voilà, un peu humoristique, et puis les influences américaines.
D'ailleurs, au moment où on fait cette interview, le personnage qui a inspiré le personnage de marchand d'armes de Nicolas Cage, joué par Nicolas Cage dans Lord of War d'Andrew Niccol, il vient d'être libéré en fait en échange d'une basketteuse américaine. Il a été libéré.
Pas fait le lien. Ça, c'est vraiment un film exceptionnel. Hein. Et c'est tout en humour froid. Hein, quand les gars viennent l'arrêter, il y a une administration aux États-Unis qui lutte contre le trafic d'armes et le tabac. Et la réflexion de Nicolas Cage, c'est « je suppose que vous ne venez pas pour le tabac bon, ». C'est de l'humour, c'est fin, enfin, j'adore ça. Quoi.
Ah, et puis les Portes de la Gloire, bon, la leçon de vie de Benoît Poulvorde au bord de la piscine, c'est quand même quelque chose. Voilà,
c'est exceptionnel, avec des superbes acteurs. Hein, c'est vraiment un film. Alors ça, celui-là, je le connais quasi par cœur. Hein.
Écoutez James Olin, auteur de « Aimez-vous les uns les autres », paru aux éditions du Caïman, au micro de Culture Prohibée. Vient cette idée de transposer cet univers de jeunes de cité qui va débarquer comme ça dans l'univers de la bourgeoisie axonaise, lannaise, voilà. D'où ça vous vient ?
Si vous voulez, c'est un des ressorts qui n'est pas forcément conscientisé, mais quand vous arrêtez des ressorts de l'humour ou de l'intrigue, hein, tout simplement, si vous confrontez des milieux très différents, forcément, hein, c'est comme il y a deux pierres qui se cognent, ça fait des étincelles. Et c'est généralement générateur de situations cocasses ou de situations. Donc, soit vous restez à l'intérieur de la cité et puis vous faites un roman en gros sur la cité, soit vous restez à l'intérieur de la bourgeoisie de la ville de Laon et vous faites un roman sur la bourgeoisie, soit vous décidez de confronter les deux et ça peut faire un truc assez original. C'est ce que j'ai choisi de faire. Et puis j'avoue que bon, bah, j'y prends du plaisir, hein. C'est rigolo parce que ça donne lieu à des trucs complètement improbables. Donc c'est assez fun, quoi. Plus sympa à écrire que de faire une sorte de romance documentaire. Voilà.
À titre d'expérience, je vais revenir après sur l'histoire, à titre d'info, vous mettez combien de temps pour écrire un livre comme ça ?
Je dois mettre entre un an et un an et demi.
D'accord.
Parce qu'il y a une grosse phase, mais l'écriture en tant que telle n'est pas si longue que ça, hein. C'est la phase de réflexion. Je fais une structure, c'est très structuré. Ça me prend beaucoup de temps. Ce qui fait mais après, je m'échappe de la structure. Alors, c'est ça qui est gênant. C'est que je passe beaucoup de temps à faire une structure. Après, je m'en échappe. Mais bon, si je n'avais pas fait le travail de structuration préalable, je pense que je n'échapperais pas avec beaucoup de succès.
D'accord. Vous travaillez à l'agent Patrick Manchette. Vous faites un plan très mathématique avant, puis après, vous vous accommodez de ce plan plus ou moins, quoi.
C'est ça, exactement. Vers le tiers ou les deux tiers, les personnages prennent naturellement leur propre dimension. Puis il y a des idées qui me viennent, alors je dis bah tiens, on va faire comme ça finalement. Après je retombe toujours plus ou moins sur mes pieds, hein, parce que je sais où je veux arriver. Mais bon, ça c'est pas forcément la ligne droite. Hein.
Alors il y a aussi un, parce que là on dit bon bah c'est un petit jeune de cité qui va se retrouver confronté à la bourgeoisie dans le 02. ouais. Mais c'est pas que ça en fait, c'est il y a une verve incroyable, et puis c'est une radiographie de la société française. Tout y passe un peu, tous les phénomènes sociaux de ces dernières années, tout y passe, du gilet jaune au... Après, je reviendrai un peu sur les personnages, mais tout y passe. C'est vraiment une petite radiographie de la société française, mais toujours traitée, alors avec férocité, mais aussi avec une certaine tendresse, je trouve.
Oui, c'est ça. Non, ouais, moi, c'est ça, je suis pas... Je porte pas de jugement hein, sur les gens, les personnes, les phénomènes, mais je les observe avec un œil amusé. Et puis j'essaye de déceler la partie comique de l'affaire. Je veux dire, il y a toujours un petit truc sympa, il y a toujours un petit truc humoristique. Voilà, donc oui, je prends les choses qui se passent. Mais je veux dire, c'est tellement drôle, il n'y a qu'à ouvrir le journal et puis... On peut prendre n'importe quelle chose, les choses sur lesquelles on peut pas rire se comptent quand même sur les doigts d'une main, mais les autres, on peut toujours retrouver un truc humoristique, quoi. C'est une manière de voir la vie, hein, d'une manière générale.
Parce que j'avoue, hein, le livre m'a arraché quand même quelques... J'ai ri en le lisant, ce qui est des choses qui arrivent assez rarement quand même, et en particulier avec quelques personnages quand même qui ne sont pas piqués des verres. Il y a cette journaliste féministe, cette philosophe nymphomane aussi, qui est botoxée, ce liquidateur cynique, le prêtre là, qui est quand même très très matérialiste. Vous y allez... Wow, c'est un jeu de massacre en fait, quoi. Tout le monde y passe, quoi.
Ben ouais, tout le monde y passe. Alors, ils en prennent tous pour leur grade, quelle que soit leur opinion, leur origine, tout le monde en prend pour son grade. Et puis, alors même le héros, il est héros, mais il n'est pas non plus totalement généreux. Il y a quand même donc c'est assez rigolo. Mais j'avais vu un gars qui écrivait un mec assez connu qui écrivait des romans noirs là. Et en Espagne, et lors d'un salon de livre, il m'avait dit le truc suivant. Il m'a dit, quand on aime bien les personnages, on se plaît à les torturer longtemps. Et ben, c'est un peu ça en fait. Quand on en tient un personnage, on est content de lui faire vivre des tas de péripéties et de le malmener.
Ben c'est, en tout cas, la mission est accomplie. Alors le héros, c'est vrai, il y a personne qui est 100%, c'est comme dans la vraie vie, quoi, qui est 100% blanc ou 100% noir. Voilà, le héros, il a ses zones d'ombre et puis ses côtés sympas. Mais ce gamin là, il a aussi un petit côté candide. C'est un peu le candide qui est le candide de Voltaire, qui est catapulté dans un monde auquel il va vite s'adapter, mais qui est quand même pour lui une véritable découverte. C'est très étonnant pour lui.
Ouais, c'est ça. Bah, c'est un jeune qui a 18 ans, hein, qui sort de terminale et puis qui découvre je dirais, un petit peu les turpitudes d'une famille bourgeoise de province, alors avec des gens qui s'embrassent par devant, mais qui se plantent des coups de couteau par derrière. Et il va remarquablement s'adapter, tout en étant apprécié de ses frères et sœurs, et puis tout en, finalement, en leur apportant aussi du positif. Donc, c'est ça. Ça permet aussi de revoir des choses qui peuvent nous paraître évidentes, de le voir sur un œil neuf, quoi.
Ouais, puis il est pragmatique, ce personnage. C'est-à-dire que lui, il vient dans un but précis. Il y a une histoire avec son frangin, on ne va pas la raconter, il faut que les gens lisent le livre. Mais il vient dans un but précis. Et en fin de compte, il est très pragmatique. Mais ce qui plaît aussi, en particulier chez le liquidateur, par exemple, ce qui plaît à ses frères et sœurs, c'est ce côté très pragmatique. En fait, lui, il va droit au but. Il a un train à prendre.
Ouais, lui, voilà. Il a un objectif. Il veut le remplir. Et il est très intelligent, il s'est usé de pas mal de, il a pas mal de cordes à son arc, tout en étant assez naïf, assez candide, il sait mener sa barque, et il sait comment faire aussi pour séduire ses interlocuteurs ou les manipuler.
Oui, parce que alors c'est ça que je trouve, ça c'est un truc très intéressant, je trouve, dans le bouquin, c'est qu'effectivement, ce gamin, dans l'inconscient collectif, ce gamin, il n'a pas les armes pour réussir dans la vie, voilà, d'un point de vue extérieur. Oui. Il se retrouve face à des gens qui sont tous, entre guillemets, des sachants, c'est-à-dire cette philosophe, cette journaliste, ce prêtre, ils ont tous un savoir, ils sont tous, soi-disant, supérieurement intelligents, tout ça, même le liquidateur, il a un savoir dans le droit, dans les jurisprudences et tout ça, et en fin de compte, c'est lui le plus intelligent de la bande, parce qu'il a cette espèce de, comment dire, d'esprit de survie, quoi.
C'est ça, il a une intelligence pratique, il cerne bien les individus, il voit quel type... qui peut en tirer, ce qu'il peut en attendre. Il a une intelligence, c'est ça, de situation. Et puis, il a quand même le fond qui est bon aussi. Donc, ça, finalement, quand on a le fond qui n'est pas trop mauvais, ça attire la sympathie des gens qui finissent par lui rendre service.
Bah, en tout cas, moi, j'invite toutes nos auditrices et auditeurs à... se précipiter sur ce livre, donc Aimez-vous les uns les autres, de James Holin, paru aux éditions du Caïman. Je ne peux pas vous quitter sans vous demander peut-être que vous n'y avez pas encore songé, mais quelle direction comptez-vous prendre avec votre prochain ouvrage? Est-ce qu'on va retourner dans quelque chose de plus noir, de plus drôle, ou encore un mélange de tout cela?
Alors dans le prochain, je suis en train de l'écrire là. Ça sera plutôt dans la veine sombre. Et là, je me suis dit, tiens, on va faire un roman cette fois sur un thème, et le thème, ça sera la trahison. Et la trahison, pour l'illustrer, j'ai pris une histoire de trafic de stupéfiants. Et donc, ça sera plutôt sombre. Alors, évidemment, des fois, il y a des petits, on peut pas, on se refait pas. Hein, des fois, il y a des petits éclats, des petits nez rouges ou des petits clins d'œil, quoi, pour se marrer. Mais il sera plutôt sombre. Dans le milieu, pour tout ce qui concerne la trahison, voilà.
Écoutez Culture Prohibée spécial polar. Nous avons également sélectionné, hormis ces quelques lectures, nous avons sélectionné quelques films parmi les sorties récentes de nos éditeurs préférés, quelques films qui viennent d'arriver en Blu-ray, DVD ces dernières semaines, derniers mois, et en particulier un film assez passionnant qui s'appelle Le coup de l'escalier. On va plutôt préférer le titre anglais d'ailleurs, Odds Against Tomorrow, un film de 59, un film noir tardif, voilà, de Robert Wise, avec, excusez du peu, Robert Ryan, Harry Belafonte, Ed Begley, Shelley Winters aussi, Shelley Winters qu'on avait pu voir par exemple aussi dans La Nuit du Chasseur, hein, voilà, de Charles Laughton. L'histoire est simple, hein, c'est l'histoire d'un casse qui est fomenté par un homme qui s'appelle Dave Burke, qui est un ancien policier qui pense lui avoir été licencié de manière injuste. Nous, on ne sait pas trop, ça se discute, voilà. Et il prépare un cambriolage assez facile, hein. Il va chercher un ancien combattant qui est joué par l'immense Robert Ryan. Il va chercher cet ancien combattant un peu frustré, un type un peu revenu de tout, avec des côtés infects, voilà, un type qui lutte en fait pour pas sombrer dans la criminalité, on le sent bien. Et il va le chercher pour faire le coup. Et il lui faut un noir, puisqu'en fait tous les jours, là où il y a un dépôt d'argent, il y a un noir qui vient livrer un repas. Et c'est la seule fois dans la journée où la porte de ce dépôt d'argent est ouverte et où donc on peut rentrer pour ramasser les billets. Et il décide donc d'engager, un chanteur de cabaret qui vit une période difficile de sa vie. Hein. Robert Ryan, lui, il a une relation un peu compliquée avec Shelley Winters. Compliqué pour lui parce que c'est elle qui ramène les sous à la maison en fait, tandis que Harry Belafonte, puisque c'est lui dont il s'agit, le très talentueux Harry Belafonte qui est aussi chanteur, donc il y va de son numéro de chanteur dans le film. Harry Belafonte, lui, il est en plein divorce, il essaye de faire ce qu'il peut pour élever au mieux sa fille. On sent que sa femme est encore un peu amoureuse de lui, mais que bon, sa vie dissolue fait que le couple n'a pas tenu. Ce trio, donc composé de cet ancien policier licencié, de ce Johnny Ingram, hein, ce chanteur noir criblé de dettes qui doit des sous à la mafia, et de Earl Slater, un ancien soldat qui n'arrive pas à se réinsérer, eh bien, va mener ce casse. Évidemment, ça ne va pas vraiment se passer comme prévu. Sinon, quel intérêt de faire un film, hein, si le casse se passe bien. Voilà. Et ça va donner, mon cher Damien, un film noir. Pas un film noir. Voilà.
Un film noir en noir et blanc, ça porte bien le ton. Comme tu l'as dit, je préfère aussi le titre anglais Odds Against Tomorrow, qui je trouve plus classe et renvoie bien à l'idée de l'équipe qui est forgée assez étrange, qui se bat pour avoir un avenir un lendemain. C'est un film très important dans la filmographie de Robert Wise. Il le fait juste avant ou après West Side Story, ce qui est assez drôle parce que Ed Beckley, qui joue Dave Burke, celui, l'ancien policier qui va réunir tout le monde pour le casse, un an avant, avait fait Les 12 hommes en colère. Donc on est un peu dans une période de bonne création. Et ce qui est intéressant dans le film, c'est vraiment les interactions entre les différents personnages. J'aime beaucoup la présence de Ingram qui rajoute son charme et ses talents au film. Comme tu l'as dit, on retrouve les codes du braquage. Après, il faut faire attention parce que le casse, c'est vraiment le point culminant du film. C'est-à-dire que durant tout le film, on voit la mise en place, on voit les tensions au sein de l'équipe entre les personnages qui ne se font pas confiance. Ce qui est intéressant avec ce film, en plus des interactions, c'est la morale qu'il en tire un peu à la Armstrong. C'est-à-dire que qu'importe nos couleurs de peau, à la fin, un squelette, c'est juste un squelette. Et j'aime bien le scénario, et de ce que j'ai vu de base, il devait y avoir un happy ending pour tout le monde, mais ils ont trouvé que ça ressemblait trop à un autre film, du coup ils l'ont changé, et ça donne au film une morale assez sombre avec l'idée que la haine détruit absolument tout, même les espoirs de meilleur lendemain. C'est un très beau film dans ses plans et dans son image, qui arrive bien à coller à cette idée d'autodestruction entre les humains.
Je suis venu avec un film signé d'un réalisateur avec lequel je suis plutôt fâché. Je dois bien vous dire, ce film, c'est Un flic explosif, Un poliziotto scomodo, c'est un poliziotesco. Donc, ce film italien qui se déroule dans la période des années 70, où les Brigades Rouges combattaient l'extrême droite, où il y avait des attentats un peu partout en Italie. Alors ça, c'est une vision très, très raccourcie, hein, qu'on ne m'accuse pas de développer des stéréotypes. J'ai pas le temps d'en dire plus. Voilà. On l'a déjà fait dans l'émission, on en a déjà parlé plus longuement. Vous avez qu'à vous brancher sur notre podcast, le podcast de Culture Prohibée, vous en saurez plus sur le poliziotesco. Et là, on a un film de Stelvio Massi, qui est un réalisateur que moi, je trouve surestimé. Mais c'est parce que je n'avais pas vu celui-là, en fait, parce que celui-là m'a agréablement surpris. Ce film, c'est donc Un flic explosif. Il est avec, l'acteur préféré de l'amicale des moustachus et barbiers de toute l'Italie, hein, l'icône de la droite italienne, hein, Maurizio Merli. malheureusement mort très jeune parce qu'il était, comment dire, c'était un grand sportif, mais il est mort très jeune en jouant une partie de tennis. Alors, comme le rappelle Kurt Riddle dans les bonus de ce film édité par Artus, le sport, ça peut être dangereux pour la santé. On ne le dira jamais assez. Voilà. Donc, alors, Maurizio Merli, c'est un athlète, c'est un cascadeur à la base, qui va prendre des cours de théâtre, d'acting, comme on dit maintenant, pour justement devenir un véritable acteur. Et il va imposer, alors il va jouer dans pas mal de films, hein, beaucoup de second rôle, et il va s'imposer dans ce rôle récurrent de flic très très à droite, qui fait la justice à sa manière. Il va vraiment devenir une icône pour les Italiens. Il fait quasiment ses cascades lui-même, quasiment tout. Mais comme c'était un peu une star, les assurances, c'est très bien expliqué dans les bonus par Danilo Massi, qui est le fils de Stelvio Massi, parce qu'en fait, les assureurs avaient trop peur qu'il se tue quoi, pendant les tournages. Parce que là, il fait quelques cascades à la Bebel quand même. Hein. C'était un peu le modèle, hein, Bebel, Delon, enfin plus Bebel pour les cascades, mais ça, c'était un peu le modèle de tous ces acteurs italiens. Là, alors hormis dans l'Ouestéan où il va faire Manaya lo Malhache pour Martino, mais enfin il est surtout connu, un très bon film d'ailleurs, Manaya lo Malhache, il est très connu, Maurizio Merli, pour cette figure du flic inflexible, violent, pour qui tout est bon, pour faire avouer. Alors là, il enquête sur un trafic de diamants, hein, dans lequel est mêlé un haut responsable, un haut fonctionnaire des douanes. Et c'est assez hilarant parce que bon, il découvre très vite qu'il y a une jeune fille qui est mêlée à ça, parce que la dernière fois qu'une victime, la première victime, c'est une jeune femme qui est trouvée morte par un clochard. Voilà. Donc Merli débarque, tout ça et tout. Bon, évidemment, il y a un garagiste qui veut rendre service, qui débarque et qui dit « Voilà, moi j'ai vu, il y avait trois personnes, il y avait machin, un gamin, tout ça et tout. » Bon, dont cette fille qui est morte et une autre fille. Bon, bah du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il convoque la fille au commissariat. Alors j'aime beaucoup parce que c'est ça donne une certaine idée de la justice. Hein. C'est-à-dire qu'il convoque cette gamine qui va avoir une vingtaine d'années. Il a bourre de claques dans la gueule direct. Il cherche pas. Hein. Il tape avant, il pose des questions après, Maurizio Merli. C'est un peu comme ça que ça se passe. Ouais, il est comme ça, Maurizio Merli. Quand il demande à un suspect si la voiture est à lui et qu'il sait très bien que le suspect est là... Personne ne répond, du coup, il dit « c'est à vous ?» Il fait « non, c'est pas à nous ». Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il donne des coups de latte dans les phares pour tout péter. Ce qui fait que le mec à la bagnole finit par sortir. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il lui met une branlée. Il lui met une branlée, puis après, il lui pose des questions. Voilà. Alors, du coup, ses supérieurs lui reprochent un peu ses méthodes. C'est pas très, très bien comme méthode. Voilà. Donc, c'est là que le film est un peu bizarre, parce qu'en fait, du coup... Il y a cette enquête sur ce trafic de diamants qui est menée par un responsable des douanes, par un haut fonctionnaire. Et puis Merli, il essaye de faire tomber ce haut fonctionnaire. Et puis, il y a un deuxième film où Merli est muté en bord de mer. Et là, il s'attaque à du trafic d'armes. Il y a deux films en un film, en fait. Voilà, c'est un peu étrange. Plutôt sympathique. Alors, ce qui est très étonnant, en fait, dans le film... Alors, dans la deuxième partie du film, il y a la belle Olga Carlatos, dont, d'ailleurs, j'aime bien Danilo Massi, explique qu'en fait, elle était tellement belle que ça en devenait indécent. C'est-à-dire, elle était indécemment belle, je trouvais l'expression très jolie. Et Olga Carlatos est célèbre pour les amateurs de bis transalpin, puisque c'est elle, dans L'Enfer des zombies, qui se fait crever un de ses yeux par une écharde, un de ses beaux yeux bleus, par une écharde, voilà, malencontreusement venue s'enfoncer dans son œil, voilà. Sacré Lucio Fulci. Là, c'est différent. Donc, on a un polar. C'est l'image de tous les polars italiens de l'époque. Il y a une scène d'action toutes les 10 minutes. Bourre-pif, poursuite, coup de poing dans la tronche, coup de flingue. Bon, sachant que Maurizio Merli ne fait jamais de sommation. Hein, il flingue, hein, c'est tout, c'est comme ça. Et ça tabasse tout le long. Tout le long du film, ça tabasse. Alors, il faut aimer. Ce que j'ai beaucoup apprécié, par contre, contrairement à d'autres films de Massi que j'avais vus et que j'avais trouvé, contrairement à la réputation du réalisateur, très mou du genou, je trouve que celui-là est super bien rythmé et il y a plein de plans assez originaux. On sent qu'il sait qu'il n'a pas un scénario du tonnerre, mais qu'il essaye toujours de faire des mouvements de caméra très originaux, très amples, caméra au ras du sol, qui balaye le sol, filmé en contre-plongée, énormément de variations des valeurs de plan, un montage très cut, un très beau découpage. Il y a du boulot, il y a du boulot de mise en scène. Alors vous attendez pas à voir le polar du siècle. Par contre, si vous voulez voir un bon vieux polar italien du samedi soir qui déménage sévère, qui défouraille avec un Maurizio Merli, qui distribue des bourre-pifs comme Jésus distribue les pains, eh ben je vous conseille Un flic explosif de Stelvio Massi, sorti chez nos amis d'Artus Film. Dans ce studio, il y a un homme qui aime les films gays, qui aime les films ouvertement joyeux, qui est un grand fan de comédie. C'est pour ça qu'il a décidé de nous parler d'un film de Lino Broca sorti chez Carlotta Film, un film de 1982 qui s'appelle Cain et Abel.
Et oui, si nous avons la chance en France de découvrir le cinéma de Lino Broca, c'est grâce à un cinéphile voyageur, hein, Pierre Rissian, qui nous a quitté il y a 4 ans, 2018. Pierre Rissian qui a découvert Lino Broca en allant par hasard un jour aux Philippines, et dont les pellicules, en fait, le cinéma de Lino Broca était quasiment oublié, presque perdu. Et puis on a retrouvé finalement des copies. Carlotta avait déjà édité Manille et puis Insiang, des films d'une gaieté, mais alors vous n'avez pas idée. On est plié de rire du début à la fin. Et donc là, Carlotta a la bonne idée d'éditer un autre film, une autre, qui donne une autre facette de Lino Broca, parce que Lino Broca, c'est plutôt des drames, hein, des mélodrames assez très ancrés dans le social, très politique. On est un peu plus dans le cinéma commercial, dans le cinéma d'exploitation, voire même peut-être le cinéma un petit peu bis. Alors donc, qu'est-ce que raconte Cain et Abel ? Évidemment, ce n'est pas une adaptation littérale de la Bible. L'action se situe en province, hein, les autres films de Lino Broca se situent généralement à Manille. Là, on est en province et on est dans une ferme qui est dirigée par la Señora Pina, une veuve, et elle dirige cette ferme d'une main de fer. Donc, son fils aîné Lorenzo vit sous son toit avec son épouse qui est enceinte et ses deux fils. Et un jour, son autre fils, le cadet, Elis, revient réclamer de pouvoir diriger la ferme. En fait, il veut l'héritage de sa mère, quoi, au détriment de son frère. Et parce que là, on apprend qu'il y a une petite rivalité entre les deux frères. Alors, Lorenzo est touché dans sa fierté et il décide de quitter la ferme avec sa famille. Seulement un événement malheureux va transformer ce qui est une simple rivalité entre frères en une véritable guerre des gangs. Lino Broca, c'est un peu le William Friedkin philippin. Hein. Ses films sont empreints d'un certain nihilisme et ses personnages une propension à se laisser séduire par le mal à force de subir raillerie et humiliation, comme le personnage d'Insiang, hein, dans le film homonyme, dont la jeune femme donne le prénom à son titre, qui est également édité chez Carlotta, hein, je l'ai dit. Et donc Cain et Abel parlent bien sûr de jalousie, de rivalité, d'obsession, mais aussi de pouvoir et de vengeance. Ce qui commençait alors comme un mélodrame opère un virage à 180 degrés pour sombrer dans une spirale sans fin de violence. Et là, on a l'impression d'être tombé dans un film de mafieux, un film de gangsters. Et ça flingue à tout va. Et ça rigole pas du tout. Hein. Il y a des morts, on s'y attend pas du tout. Hein. Il y a des personnages... Enfin, presque quasiment tout le casting y passe. Quoi. Il ne fait pas dans la dentelle, Lino Broca. Hein. Les femmes, les enfants... Ça rigole pas. Hein. Et tout ça, c'est dans une mise en scène assez âpre, assez sec, et parfois avec des ellipses quand même assez grandes. Quoi. Et c'est quand même un cinéma... je recommande. La copie n'est pas super, mais on se doute que c'est un film qui a été retrouvé, je pense, avec une copie...
C'est une copie qui a été retravaillée, hein, parce que c'est un film très, très, très rare, en fait, hein, et qu'on peut voir, voilà, parce que comme tu l'as dit, les films de Lino Broca étaient quand même en grande partie réputés perdus quand même, hein. Donc moi je la trouve plutôt correcte, mais c'est vrai que elle a pas la splendeur de certaines restaurations 4K qu'on a parfois, c'est normal puisque le matériau de base, il était un peu fatigué, quoi.
Voilà. Bah oui, on se doute que c'est un film rare, difficile, et que la copie, effectivement, comme tu dis, était fatiguée, mais quand on compare par rapport à Manille et Insiang, la qualité n'est pas tout à fait la même, mais on est quand même très content de pouvoir découvrir ce qu'Cain et Abel, grâce à Carlotta, hein, de découvrir donc cette autre facette de Lino Broca. Car moi, je recommande vivement Cain et Abel, qui est un film qui rigole pas beaucoup, en fait. Hein.
On va continuer dans les films, on va dire, où on se marre pas des masses, en fait, en vérité. On va parler de La Nuit du 12. Alors, La Nuit du 12, c'est un film qui est sorti chez ESC. C'est un film de Dominique Moll. Sur un scénario de Dominique Moll et Gilles Marchand, qui a adapté de 18-3 une année à la PJ, un livre de Pauline Guénat. Et c'est un film un peu particulier, parce que c'est un film où, dès le début, on nous dit que l'énigme à laquelle on va être confronté n'aura pas de résolution. Voilà. Il n'y a pas de coupable pour le féminicide auquel on assiste au début du film. Au début du film, on a une jeune fille, ses copines, ses amis, et puis cette jeune femme rentre chez elle. Cette jeune femme s'appelle Clara. Elle a peut-être 300-400 mètres à faire pour rentrer chez elle. Elle tombe sur quelqu'un qu'elle connaît. On ne saura pas qui c'est, mais elle le connaît. Ça paraît évident vu sa réaction. Mais la mise en scène fait qu'on n'arrive pas à voir qui c'est. On n'arrive pas à le reconnaître. Et cette personne, eh bien, décide de répandre de l'essence sur Clara et lui met le feu. Voilà. Derrière tout ça, il y a l'enquête menée par le capitaine Johan Vives et Marceau, son acolyte. Alors Johan Vives, c'est Bastien Bouillon, et son acolyte Marceau, il est joué par Bouly Lanners. Des flics avec des fêlures, des flics qui ne sont pas justement des parangons de virilité, qui sont des flics peut-être plus proches de la réalité, en fait, que ce qu'on peut voir dans d'autres films, hein, qui sont plutôt emmerdés avec la photocopieuse et la machine à café qu'à se battre contre une hiérarchie qui les empêche d'avoir des méthodes brutales. On n'est pas vraiment dans le polar caricatural, là, quand même, on est dans autre chose. Mon cher Damien, on se retrouve dans un film... assez surprenant, parce que malgré le fait que on sait dès le début qu'il n'y aura pas de résolution à l'intrigue, le film reste très prenant. C'est une sorte de petit miracle comme ça, avec la mise en scène de Dominique Moll, qui, je trouve, Dominique Moll, qui est un cinéaste qu'on avait beaucoup aimé au tout début de sa carrière avec Harry, un ami qui vous veut du mien, Lemmings, tout ça, revient au meilleur depuis deux films. Seul Les Bêtes était un film que j'avais trouvé très bon aussi. Et celui-là est aussi très en prise avec la société actuelle. Et je trouve que c'est un film fort intéressant. Moi, je trouve que c'est le meilleur film de Dominique Moll, en fait.
Je ne sais pas si La Nuit du 12 de Dominique Moll, c'est mon préféré de lui. Je suis encore en train d'y réfléchir. Mais c'est vrai qu'il ne m'a pas laissé indifférent. Comme tu disais, on a des policiers qui ne sont pas clichés. Ce ne sont pas des parangons de la virilité. Ils vont pas être borderline pour avoir des réponses, enfin pas totalement. Et je me demande si cette écriture n'est pas liée justement au fait que ce soit l'adaptation d'un bouquin fait par une écrivaine, Pauline Guénat, si au niveau de l'écriture de personnages, ça joue pas au final sur l'histoire. On retrouve les relations conflictuelles hommes-femmes qu'on avait déjà eues dans Seules les Bêtes, qui était également une adaptation que Dominique Moll avait fait, c'est son précédent film. Il y a un autre truc que je trouve intéressant, c'est la musique très onirique qui donne un petit effet surréel, mais dans le bon sens, c'est-à-dire comme si de telles violences ne devraient pas exister, ce qui rend le tout, ce qui donne une atmosphère assez particulière. Je trouve le film un peu dur avec les relations libres, vu que justement ça va tourner énormément autour de ça pour trouver... qui s'en est pris à la victime. C'est aussi parce qu'on a affaire à des policiers de la vieille école et qui continuent à faire leur travail comme ils peuvent. Le point que je trouve le plus intéressant dans le film, c'est que je trouve qu'il y a un changement de dynamique vers la fin, où il devient plus féministe, pas dans le sens où il prend le parti des femmes, dans le sens où on a plus de personnages féminins qui vont avoir la parole. On va avoir la nouvelle préfet de la police judiciaire qui va vouloir relancer l'enquête. On va avoir la jeune stagiaire. Et au final, durant une grande partie du film, on a surtout des hommes qui parlent des femmes, des hommes qui font l'enquête. Et vers la fin, on a plus ce truc avec les femmes mises en avant. Et je pense que c'est lié aussi à un contexte, parce que, si je ne me trompe pas, le meurtre a lieu en 2016. Et au moment où l'enquête est relancée, c'est 3 ans plus tard. Du coup, on est en 2019, on est après tout ce qui s'est passé dans MeToo. On a aussi, à mon avis, un côté force de police qui voit les choses différemment. L'autre point du film que j'aime beaucoup, c'est le casting où, alors moi, il n'y a aucune tête que j'ai reconnue dedans, ce qui fait qu'il a un casting jeune mais extrêmement efficace qui arrive à porter très bien le film. Un film qui est d'ailleurs calme et très ouvert, on n'a pas une ambiance anxiogène comme on peut avoir, mais qui ne nous empêche pas d'être à fond dans le film du début à la fin. Au final, on a peut-être plus affaire à un drame sociétal qu'un trailer ou un polar, mais là, à vrai dire, je joue sur les mots. En tout cas, pour moi, ça reste une très bonne surprise de 2022.
Pour moi, c'est un bon film. Ce n'est pas, comme j'ai pu le lire à droite à gauche, un des très grands films de l'année 2022. Et pour moi, La Nuit du 12, c'est très symptomatique de cette tendance actuelle qui fait que le sujet prend le pas sur le traitement. Voilà, c'est comme l'autre coup, j'entendais Bonello parler à la radio où il disait que justement il alertait sur cette tendance où le sujet prenait le pas sur le traitement. Dans ce cas-là, pour reprendre son exemple, on fait un film sur la Shoah et puis ça y est, tout de suite, c'est un chef-d'œuvre. Et là, je pense que le fait que le film parle de féminicide, qui est très dans l'actualité, dont on en parle beaucoup, je trouve que son sujet prend le pas sur son traitement.
C'est un film qui m'a énormément plu par rapport à tout le reste de la production française en matière de polar, de thriller. Parce que les deux thrillers en fait français qui ont marqué l'année 2022, ça va être La Nuit du 12 et le film de Cédric Jiménez, Novembre. Novembre, son défaut, c'est quoi ? C'est un super film d'action, super bien filmé, tout et tout. Mise en scène extraordinaire, l'assaut final est hyper glaçant et tout. Enfin voilà, avec des acteurs super, Lina Koudry est extraordinaire et tout. Voilà, super bien, Dujardin très bon. Mais en fin de compte, ça raconte pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de points de vue. Voilà, j'aime beaucoup le film, hein, mais pour ce qu'il est, c'est-à-dire pour un film d'action particulièrement bien fait. Et de l'autre côté, on va avoir un film avec un propos. Voilà, je parle des deux polars français de l'année à peu près, hein, voilà, qui est le film de Dominique Moll, qui évidemment, quand tu traites un sujet comme ça, peut pas non plus passer à travers les fourches codines de cette critique, de dire, ben voilà, le sujet, attention à ce que le sujet prenne pas le pas sur le film. Et je trouve que, pour être honnête, si le sujet peut parfois prendre le pas, Dominique Moll arrive à se dépatouiller du truc pour que justement on arrive vers autre chose et on retrouve ces thématiques à lui qui sont des thématiques liées pour moi à la description de vie de personnages en fin de compte très solitaires, très asociaux. Je terminerai malgré nos désaccords par vous rappeler le titre du livre de James Ollin paru aux éditions Caïman. James Ollin qui était l'invité de cette émission. Les amis, aimons-nous les uns les autres. Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec les films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demey, dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland, dit Le Loup-Garou Picard, and the last but not the least. Je veux bien sûr parler de Léomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine!